T'as pas
Hello! Bonjour à tous! Bienvenue sur le mug de Marion. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 28 septembre 2021. J'espère que vous avez la forme. Mon premier mug de rentrée. On va tester un petit peu la nouvelle configuration. Donc, n'hésitez pas à faire quelques. Là, on va profiter un petit peu de l'intro pour faire quelques petits retours. Alors, a priori, Samuel, salut Samuel, me dit que le son est bon 5 sur 5 et je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre les articles dans le flipboard préparation. Texcope, donc toutes mes excuses, je le ferai après l'émission pour toi, Samuel. Voilà, donc n'hésitez pas. On n'a pas, on n'est pas encore calé en termes de déco, de décor, on va dire. D'ailleurs, vous voyez même mon tapis de yoga derrière, mais on n'est pas encore super calé en termes de décor. C'est le premier que l'on fait depuis le bureau. Donc voilà, nickel l'image et le son, 5 sur 5. Ça fait bizarre les décors. Ah ben voilà, on vous fait un petit peu visiter les décors. Ça manque de vomi de licorne. C'est un peu trop sage encore, hein. Je suis d'accord avec toi, Cyril, mais ne t'inquiète pas, le vomi de licorne reviendra évidemment plutôt mercredi, hein, en compagnie de nos intenables Guillaume et Jérôme lors du Twitch achat, donc vous le retrouverez. Un poil trop lumineux, tu trouves? Ah bon, bah écoute, chez moi ça rend plutôt bien, ça me permet d'avoir l'air réveillé. Voilà, Marion, t'embête pas pour les articles, c'est avant le live que j'en ai besoin. Ah ok, désolé Samuel, j'essaierai vraiment de faire attention pour les prochaines fois, mais voilà. Très bon choix comme tapis de yoga, il me fait de l'œil depuis un moment celui-là. Bah écoute, voilà, voilà, petite pub. Bon, mais sinon, il faut quand même que je vous raconte, vous avez pu le voir lors de la petite vignette, bah, j'ai des co-présentateurs. Voilà, on vous en avait parlé la semaine dernière, mardi, quand on s'était retrouvé pour le lancement du mug avec Jérôme et Guillaume. Eh ben, il se trouve que depuis samedi, on coach des nouveaux présentateurs que Jérôme essaye de trouver pour qu'on vous les... Voilà, on vous fasse leur présentation. Ça n'a pas l'air... Super évident. Donc voilà, donc premier co-présentateur, c'est donc Mazza, co-présentateur numéro 1, donc entre presque 3 mois, hein, donc un petit peu jeune. Voilà, il va falloir être un peu patient sur le coaching star, mais voilà, donc c'est encore un petit peu jeune, mais ils sont, voilà, vous pouvez voir qu'ils font, qui peuvent attirer la caméra. Hein. Ils ont voilà un petit peu l'âge de star. Il lui manque les petites lunettes, mais il a encore les yeux bleus. Voilà, très très joli. Et il a envie d'aller jouer avec son coprésentateur que Jérôme essaye de me trouver sans succès. Donc voilà, donc son petit frère, a priori, n'est plus là. Je vais le laisser tranquillement reprendre sa vie et sa séance de jeu. Mais voilà, les chats, ça fonctionne toujours. La seconde
Attends, c'est un
star
cerf-volant.
qui arrive en volant, voilà, effets spéciaux incroyables pour vous présenter notre ami Cheddar. Voilà, donc on fait dans les fromages chez Naotech. Donc voilà, donc petit frère, enfin petit ou grand frère, hein, ça on ne sait pas l'ordre d'arrivée, hein, mais voilà, petit frère ou grand frère de Mozza. Donc voilà un petit peu les co-présentateurs que l'on aura sur la chaîne. Vous risquez un petit peu les voir, mais la séance de jeu est prioritaire, donc on va les laisser tranquilles pour qu'ils puissent aller terroriser son frère qui est derrière. Voilà, donc Cheddar, bienvenue. Cheddar, c'est avec 2D quand même, hein, hein. On fait référence au fromage. Il y a 2Z pour Mozza et 2D pour Cheddar. Ah oui, c'est la version négative de l'autre. Ils sont pas tout à fait exactement pareils. Il y en a un qui a un poil plutôt ras, l'autre poil plutôt long. Ça va être la galère d'ailleurs dans l'appartement. Ça va nous permettre de tester des aspirateurs et de les éprouver avec les poils de chat. Leur quart d'heure de folie, ouais, le tutorien, je peux vous dire qu'à cet âge-là, ça dure un peu plus d'un quart d'heure et il y en a beaucoup, beaucoup dans la journée. Et voilà comment on a commencé l'exploitation des humains par les chatons. Non, mais vous voyez comment on essaye de vous amadouer un petit peu chez Naotech en vous montrant des images de chatons. Et ben voilà, vous verrez quand même le fail de la miniature, enfin de la vignette de la vidéo du mug ce matin avec les chats qui sont flous, qui tombent de mes épaules, etc. On a essayé, mais c'était pas super présentable. Donc voilà. Tiens, maintenant, vous prenez le mardi. Ben oui, Manon, on a changé un petit peu de jour pour arranger les agendas de chacun, principalement le mien. Voilà, donc on s'est posé la question et je vais tester le mardi pour voir si c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Là, je vois des habitués, plein d'habitués et des nouveaux aussi dans la chatroom. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Mais bon, voilà, il est 8h08. Je vous propose quand même un sub égale une croquette. T'es un peu radin, Léo, quand même. Non, on ne conditionne pas l'alimentation de nos co-présentateurs au sub. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, vous n'aurez plus de présentateur. Tout simplement. Donc voilà, je vous propose quand même de commencer avec, ben voilà, tout simplement, le kawa. Et voilà, je manque d'air, je panique, ok. Bonjour, j'ai des soucis raccord image son sur Apple TV 4K et sur appli iPhone. Bah, merci Blackbird de partager ton retour. Je sais pas si tu as essayé de killer peut-être les apps et de revenir pour voir si ça persiste, mais on verra si d'autres personnes nous le signalent. Un grand merci en tout cas de nous le dire. Légère désynchro a priori, confirme Naotech. Voilà, donc stay tuned en tout cas pour les présentateurs, co-présentateurs Cheddar et Mozza. Il est fort probable qu'ils fassent leur apparition dans les prochaines vidéos de la chaîne parce que voilà, ils vont prendre le contrôle, on le sait, hein, les chats dominent le monde et ça sera un petit peu le cas aussi de certaines vidéos. Voilà, quand même, de quoi on va-t-on parler ce matin ? Parce qu'on est quand même là pour parler de tech, hein, ou presque. On va parler aussi show télé à un moment donné, mais on va quand même parler de tech. Alors, on va parler, donc je prends mon petit sommaire. On va faire un petit peu le point sur TikTok ce matin. Et oui, il vient d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Et puis, on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire ? La vitesse de croissance, etc. Où est-ce que il y a le plus d'utilisateurs dans le monde pour TikTok ? On verra un petit peu, on prendra le pouls en tout cas de où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Peut-être leur futur plan, voilà, on en parlera ensemble. On continuera en prenant des nouvelles, voilà, en faisant une petite mise à jour des réactions du Congrès et de la Chambre concernant l'annonce de Facebook de mettre en pause leur projet d'Instagram Kids suite à la publication du Washington Post. Je ne crois pas qu'on en ait trop parlé encore sur le mug, donc voilà, on reviendra dessus quand même, c'est quand même une grosse affaire. Ensuite, on parlera de vie privée et comment vous pouvez être espionné par votre conjoint, ou vous pouvez espionner vos enfants, ou vous pouvez espionner vos employés. Vous pourrez être inquiet, stressé. Voilà, pour commencer la journée, c'est toujours bien de se faire une petite piqûre de stress. Ben, on le fera ensemble avec une société qui vous permet d'espionner vos proches. Et puis on parlera aussi de Google qui s'implante un peu plus sur l'île de Manhattan en faisant l'achat d'un grand bâtiment qu'il louait aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pourquoi on en parle ? Bah parce que c'est quand même intéressant de savoir et de discuter de où les sociétés tech s'implantent aux États-Unis, quelles sont les conséquences et pourquoi ils ont fait ce choix. Mais vous inquiétez pas, on ne s'attardera pas non plus sur ce sujet-là. Et puis je peux vous dire que mes couples présentateurs ne sont pas très très loin puisqu'ils sont à mes pieds, donc même si vous ne les voyez pas à l'image, voilà, sachez qu'ils sont avec vous en train de se battre au pied de la chaise, voilà. Donc on continuera avec, en prenant des nouvelles de Johnny Hive. Johnny Ive, mais pas que, mais surtout de sa société Loveform, son agence de design, et on verra quels nouveaux contrats ils ont signés et du coup qu'est-ce qu'on peut attendre potentiellement de la collaboration avec une grande marque automobile. Donc on pourra faire des pronostics puisqu'on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais c'est quand même assez excitant. Et puis on parlera aussi de l'Australie et des drones de Google, ou en tout cas d'une société qui fait partie d'Alphabet. Donc vous savez, la filiale, enfin la... Ah, je perds mes mots. Ce qui chapeaute Google, quoi, la maison mère de Google, Alphabet. Et ben tout ce qui se passe actuellement, c'est que c'est la saison de nidification en Australie, la maison mère. Merci Shinru. Ah, j'ai une attaque de co-présentateur qui grimpe et qui a priori veut du coup être à l'écran. Non. Non, il est voilà, il est là, il est juste assis sur mes sur si non. Hop. Donc voilà, un cheddar à l'écran, voilà, qui veut aller jouer sur le bureau, mais c'est pas vraiment le moment, hein, vous serez d'accord avec moi. Donc on le refait descendre. Donc on parlait de Wing, qui fait partie d'Alphabet et qui permet d'avoir des drones, et donc ces drones actuellement qui se font attaquer en pleine période de nidification en Australie par des corbeaux. Non, c'est pas une blague, vous pourrez voir une petite vidéo que je vous partagerai tout à l'heure, c'est assez cocasse, assez impressionnant, et donc du coup ils ont mis en pause leur activité. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis on terminera quand même avec la première tartine de la rentrée sur un show télévisé. Ça sera Fondation, évidemment. Je crois que Gérard, vous avez spoilé la surprise, mais on parlera, puisque les deux premiers épisodes de la série adaptée des romans de Isaac Asimov du cycle Fondation, voilà, monument de la littérature de science-fiction, est sorti du coup vendredi dernier. On s'est empressé de les regarder avec Jérôme du coup ce week-end. On en parlera, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom. Voilà, il nous faut des émoticônes de cheddar. Ouais, c'est vrai ça, il vous faut cheddar et mozza, les deux. Donc mozza, ça peut être assez facile puisque finalement vous pouvez prendre une boule blanche, mais pour cheddar, ouais, je sais pas si ça existe comme emoji. Mais bon, en attendant, on parlera de Fondation pour clôturer donc du coup cette émission. Donc restez connectés avec moi pour ceux qui sont patients pour cette première édition de Mug avec moi-même et avec vous. J'espère que vous allez être un peu patients, il faut que je me rôde un petit peu. Marion arrivera-t-elle au bout du Mug malgré Cheddar et Mozza? C'est un vrai suspense. Écoutez, là pour l'instant c'est bien parti parce que ils ne sont plus à mes pieds, donc a priori on est assez tranquille. Donc on va en profiter pour commencer le premier article. Premier article du coup, et c'est TikTok. Et oui, comme je vous le disais durant le sommarion, TikTok a franchi la barre. J'ai des rideaux qui bougent, donc ils ne sont pas partis du bureau. Donc pardon, il faut que j'arrive à ne pas être déconcentrée par tout ce qui peut se passer dans le bureau. Donc TikTok qui franchit la barre du milliard d'utilisateurs mensuels, donc ça veut dire que au moins une fois par mois les utilisateurs se connectent sur TikTok, donc ça veut dire qu'ils sont comptés comme utilisateurs actifs, hein, c'est juste pour qu'on s'aligne sur la définition d'utilisateur actif avec TikTok, et donc du coup ça représente un bond de 45% de ses utilisateurs mensuels. Donc évidemment, elle reste derrière YouTube, qui a 2,3 milliards d'utilisateurs, hein, pour rappel. Mais clairement, le confinement la crise sanitaire a boosté évidemment l'adoption de TikTok. Voilà, les gens, du coup, cherchaient une manière de se reconnecter, d'échanger, d'avoir des relations sociales, entre guillemets, de se divertir, parce que c'était quand même une période particulièrement angoissante, et donc on s'est un peu reporté sur les réseaux sociaux, et là, TikTok en a bénéficié directement. Mais après, c'est un petit peu en demi-teinte aussi, hein, parce qu'ils ont été aussi accusés de fake news, de contenu violent, sexuellement explicite. Ils ont également fait la promotion, alors pas TikTok en eux-mêmes, hein, mais les créateurs sur la plateforme ont fait la promotion de drogue et de chirurgie esthétique. Excusez-moi, ils jouent avec un surligneur vert, et ça fait du bruit. Mais je ne vais pas y avoir accès. Est-ce que vous entendez? Ok, c'est tombé par terre. Je ne pourrais pas Dites-moi, sinon Jérôme fera une opération commando pour récupérer le surligneur dans le bureau, mais j'ai les chats qui jouent avec ça par terre. Donc voilà, TikTok, voilà, ils ont quand même été au cœur de polémiques, en plus société chinoise, hein, donc aussi ils ont été dans le collimateur de Donald Trump, on en a parlé l'année dernière, donc finalement ils ont pu voilà, serrer les dents et attendre que la tempête passe. Merci à mon assistant Jérôme qui coach nos co-présentateurs pour être un peu plus sages. Mais qui va pas m'aider à rester sérieuse en me les remettant sur les épaules. Voilà, donc voilà, on a des cascadeurs. Hein. Cheddar à ma gauche est quand même un peu plus cascadeur que Mozza, qui vous voyez redescend tout de suite et que du coup Cheddar le suit parce que comme ils sont frères et qu'ils veulent jouer ensemble, non, ils sont pas très à l'aise. Hein. Mozza, attention de pas tomber. Ah. Donc là, je perds mon dos, clairement. Qu'est-ce que tu veux faire? Hop, tu veux descendre? Excusez-moi, un petit interlude chaton. Hop, décide-toi. Voilà, bureau. Ah, on a quand même. Hop, je vous montre quand même. Un Mozza dans toute sa splendeur. Alors, je suis toujours là. Désolée, j'ai Cheddar qui a marché sur le stream deck et qui m'a éteint ma lumière. Et qui rejoue à... Alors, une chute de Mozza, un surligneur qu'on confisque. Excusez-moi. Hein. Voilà, tout va bien. Donc, je suis encore un petit peu trop éclairée parce que du coup, j'ai rallumé la lumière. On refait les réglages. Voilà. Alors, est-ce que Cheddar va niaquer les fils? Pour l'instant, ça va. On ne niaque pas. Non, ça a l'air tentant quand même. Hein. Mozza qui en a marre du live, ouais. Ils sont complètement fondus ces chats. C'est des chatons, donc ils font que des bêtises. C'est un peu le concours de la pire bêtise possible. Je sens la tentative de saut sur l'étendoir derrière avec le linge. Non, c'est bon. Pour l'instant, c'est sage. Ça miaule, mais c'est sage. Donc, je disais... Où j'en étais. Donc voilà, ils ont été quand même au cœur des polémiques, on en a parlé, ils étaient un petit peu dans le collimateur de Donald Trump, on en a parlé. D'ailleurs, Satya Nadella, quand il repense à cette période où justement ils ont été contactés a priori par TikTok pour travailler ensemble, avoir un partenaire américain, avoir un partenaire sur le sol américain pour justement contrer les attaques et la méfiance des États-Unis, du gouvernement américain, Satya Nadella se rappelle de cette époque et il disait que c'était quand même assez étrange, c'est un des projets les plus étranges et surprenants sur lequel j'ai pu travailler. Alors il y avait quand même des synergies intéressantes, on va dire, entre TikTok et Microsoft, parce que bon, TikTok était quand même cloud-based, enfin basé sur le cloud, qui utilisait énormément l'intelligence artificielle avec tout ce qui est filtre, etc., etc., et donc qui était un des focus de Microsoft. Donc il y avait quand même quelque chose d'intéressant, mais rappelez-vous, à l'époque, on était quand même particulièrement surpris de cette potentielle histoire, et après, Oracle s'en était mêlé. On ne sait pas trop pourquoi, et puis finalement on n'a plus vraiment entendu parler d'Oracle, autant vous dire que ça a été mis de côté de manière indéfinie, on n'en parle plus vraiment, et maintenant que c'est plus Donald Trump à la tête du gouvernement, ça se passe plutôt bien. J'espère que Jérôme n'essaye pas de saboter mon émission en me ramenant les co-présentateurs.
Non, il est en train de bouffer des trucs pas bien.
Ça grignote des choses pas recommandées. Voilà, donc on les cache. On les cache. Ça continue à grignoter des choses. Non, ça grignote des chiffons, c'est pas grave. Oui, vous pouvez le voir tout en bas d'ailleurs. Voilà. Voilà. Il est là. Hop. Non, j'y arrive pas. Il est là. Vous voyez un truc remué blanc là, c'est Mozza. Voilà, donc, concernant TikTok, en tout cas, à mon avis, ils sont plutôt contents, croissance impressionnante, puisqu'ils avaient 55 millions d'utilisateurs seulement en janvier 2018. Hein. Pour rappel, TikTok, ça a seulement 4 ans, hein, donc c'est quand même très très récent. En 2018, ils étaient déjà passés à 271 millions, et puis en décembre 2019, c'était à 507 millions. Et donc du coup, au dernier décompte, en juillet 2020, la société comptait déjà 700 millions d'utilisateurs. Donc c'est pas non plus surprenant qu'aujourd'hui, en 2021, septembre 2021, ils atteignent le milliard. Pour rappel, Facebook, eux, comptent 3,51 milliards d'utilisateurs mensuels. Voilà, YouTube, on vous l'a déjà mentionné. Et où est-ce que ces utilisateurs se situent? Principalement en Europe, au Brésil, en Asie du Sud-Est et les États-Unis, qui sont donc les plus gros marchés de la société. C'est pour ça que c'était un vrai enjeu, hein, pour TikTok de rester aux États-Unis. Voilà. Ce qu'on a vu arriver aussi dernièrement, c'est des clones de TikTok. Évidemment, c'est la course aux réseaux sociaux, hein, et à la croissance des utilisateurs sur ces plateformes-là. Et donc, du coup, bah, entre YouTube et Facebook, ils essayent tous, du coup, de récupérer ces utilisateurs TikTok un peu plus jeunes que vous et moi, je suppose, que moi, très certainement, que certains d'entre vous dans la chatroom, j'en suis sûre aussi. Et donc, du coup, YouTube a lancé, c'était quand? Mi-juillet, YouTube Shorts, donc un service qui a été déployé jusqu'ici dans plus de 100 pays quand même. J'étais même pas au courant, c'est pour vous dire, je suis complètement passée à côté de YouTube Shorts. Mais en gros, voilà, c'est des formats courts de vidéos pour pouvoir concurrencer justement TikTok. Mais Facebook n'est pas en reste, puisque également, eux, ça je m'en rappelle, ils avaient sorti un petit clone de TikTok qui s'appelle Instagram Reels, donc pas vraiment avec Facebook, mais Instagram, qui fait partie évidemment de Facebook. Mais voilà. On n'a pas de chiffres encore pour ces deux services, mais ça sera intéressant de suivre un petit peu la compétition. Maintenant, quel est l'enjeu principal de TikTok pour les mois, années à venir? C'est évidemment la monétisation. Alors, on a vu avec Twitter, hein, combien c'était problématique et combien ils avaient été lents et peu réactifs pour avoir un business model pertinent ou en tout cas solide. On va voir, hein, ce n'est pas encore le cas. Maintenant, ils se mettent un petit peu des coups de cravache. C'est intéressant actuellement de les voir. Itérer, ben là TikTok, eux, ils ont pas trop attendu, quand même un petit peu, mais voilà, ils sont un petit peu peut-être un peu plus rapides. Voilà, ils s'axent vraiment sur trouver leur business model, à monétiser un peu plus la plateforme. Alors, il y a eu de l'accélération côté publicité l'an dernier. En fin août, ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet justement aux utilisateurs d'acheter directement des produits proposés sur la plateforme par les créateurs de contenu. Alors là, ça fait un peu penser aussi à ce qui se passe sur Instagram avec les influenceurs. Mais bon, voilà. Ce qui se passe aussi, on attend potentiellement une entrée en bourse. Hein, voilà, a priori, ByteDance, du coup, la maison mère de TikTok, préparait une introduction en bourse qui serait donc très, très attendue, évidemment. C'est un petit peu critique, puisque, évidemment, actuellement, la réalisation potentielle de cette opération va dépendre grandement du gouvernement chinois qui a serré la vis. Très très fort actuellement aux sociétés qui souhaitent s'introduire en bourse sur des places financières étrangères. Donc à voir comment ça va se passer. C'est pas forcément donné, en tout cas pour Biden et TikTok. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires. Les shorts de YouTube, j'ai regardé une ou deux fois, rien de super. Ouais, après les tutoriels, c'est vraiment le début puisque c'est sorti mi-juillet, hein, je crois que c'est ça. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. Donc c'est encore très 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 récent, hein. Et le problème, c'est qu'en fait sur ce genre de plateforme, les utilisateurs seront attirés par la qualité du contenu et donc du coup c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. Il faut avoir soit des utilisateurs en premier parce que sinon les créateurs n'iront pas produire là, soit avoir des créateurs en premier parce que s'il n'y a pas de bon contenu, les utilisateurs ne viendront pas. Enfin, c'est un petit peu un complexe, quoi. Voilà, en tout cas pour TikTok. On a passé suffisamment de temps. Je vous propose qu'on parle rapidement de ce qui se passe avec Instagram, le Washington Post et les adolescents. Et oui, c'est un trio un petit peu étrange, mais c'est vraiment le trio dont on parle beaucoup actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi non, c'est pas le Washington Post, pardon, c'est le Wall Street Journal. Je me suis complètement trompée tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit Washington Post. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on en a parlé lors du rendez-vous tech. Donc, ça a dû sortir il y a 2 semaines. À peu près. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, le Wall Street Journal a publié une enquête approfondie sur des recherches qui ont été menées par Facebook pour Instagram et pour notamment l'impact d'Instagram auprès des adolescents. Adolescents et adolescentes, et qui a montré, mis en lumière en tout cas, l'impact nocif que peut avoir Instagram sur la santé mentale des adolescents et surtout ici, ce qui a été pointé du doigt, adolescentes, sur l'image de soi, sur la confiance, sur potentiellement des discours liés au suicide qui auraient été donc associés avec Instagram et la pression subie sur Instagram avec la pression de l'image. Hein, voilà. On a souvent parlé de la pression publicitaire de ces mannequins trop maigres que l'on peut voir partout, que nous renvoie la télé, la publicité, les shows, etc. Et qui, du coup, à une période où le corps des filles et des femmes change énormément et que, du coup, on a du mal à se reconnaître, on a du mal à reconnaître son corps, à s'approprier et à accepter un petit peu ce changement-là. Du coup, la comparaison constante avec des standards inatteignables de corps et d'idéal de beauté dans cette société 2021, ça impacte lourdement un petit peu le bien-être, la santé mentale des jeunes filles notamment, mais pas que les jeunes filles, il y a quand même des adolescents aussi qui sont impactés. Et donc du coup, ce qui est choquant un petit peu dans l'étude, c'est que Instagram était conscient de ces recherches-là, qu'ils n'ont rien mis en place, peu mis en place pour mitiger et limiter cet impact. Et surtout, ce qui a inquiété lourdement les représentants politiques, c'est le projet de Instagram Kids, c'est-à-dire d'avoir une application Instagram dédiée pour les enfants. Quand on voit l'impact nocif que peut avoir Instagram sur les adolescents, c'est encore plus inquiétant de l'impact possible pour les enfants. Et donc du coup, il y a eu une levée de bouclier, à raison, hein, la sphère politique, sociale, etc., s'en est inquiétée, a pointé du doigt, a demandé des explications à Instagram et Facebook. Donc voilà, ils ont été un petit peu dans la mouise, on va le dire, quand même. Et c'est vrai que de nouveau, ça suscite des méfiances, une confiance qui a été brisée. C'est pas la première fois. On se demande combien de fois ça va se dérouler, hein. C'est quand même un petit peu surprenant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lundi, Instagram et Facebook, du coup, ont annoncé qu'ils mettaient en pause le projet de développement et de définition d'Instagram Kids pour calmer un petit peu les ardeurs et les discours qui peuvent, faire rage un petit peu dans la sphère politique, mais ça n'a pas suffi, puisque lundi, après l'annonce d'Instagram et de Facebook, comme quoi ils mettaient le projet d'Instagram Kids en pause, eh ben, on a eu notamment des démocrates. Voilà, du Sénat et de la Chambre, qui se sont exprimés, qui ont appelé à carrément stopper et laisser tomber le projet de développement d'Instagram Kids. Voilà, donc il y a eu une déclaration qui a été notamment signée, qui a inclus plusieurs sénateurs. Un sénateur, un représentant, etc. Donc, à voir quelles vont être les répercussions. On va suivre évidemment cette affaire. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? C'est que le head of safety de Facebook, donc Antigone Davis, va devoir témoigner ce jeudi, justement. Les politiques ont appelé les représentants de Facebook à s'exprimer sur le sujet pour entendre leur point de vue et comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi il n'y a pas eu d'action de prise. Et donc voilà, du coup, ils vont entendre un petit peu les représentants. Et donc, notamment, ça, c'est lors d'une session qui s'appelle Protecting Kids Online, Facebook, Instagram and Mental Health Harms. Voilà, donc on vous tiendra au courant évidemment s'il y a des choses intéressantes qui se déroulent lors de cette session. Voilà. En pot, c'est une manière diplomatique de dire à la poubelle. Je sais pas, je suis pas tout à fait certaine. Je sais pas si c'est un leurre. Non, parce qu'en fait, une manière diplomatique pour... Ouais, c'est pas forcément une manière diplomatique, parce qu'en fait, ça va pas plaire à la sphère politique, parce que c'est pas assez fort comme déclaration. Mais diplomatique, c'est plutôt pour garder la tête haute pour Instagram et Facebook, dans ce cas-là. Voilà, c'est pas pour perdre... pour pas perdre la face. Mais je suis pas sûre qu'ils vont en rester là. Surtout concernant Facebook et Instagram. Le problème, c'est que des enfants s'inscrivent déjà sur Facebook et Instagram en mentant sur leur âge. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est un problème connu, Mathieu. Et je pense que, justement, c'est peut-être quelque chose sur lequel ils veulent parler. Donc voilà, en tout cas, sur cette affaire, on vous tiendra au courant des évolutions, évidemment. On continue sur des sujets un petit peu angoissants. On va faire voilà, un petit moment un petit peu angoissant. Et puis après, on parlera de sujets peut-être un peu plus légers. Je vérifie. Ouais. C'est plus léger, voilà. À part l'attaque de corbeaux, voilà, qui pourra en stresser certains qui font des cauchemars encore avec les oiseaux d'Hitchcock, mais à part ça, voilà. Donc, on continue avec le dernier petit sujet angoissant du jour, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien, il devient très, très, très facile de trouver des logiciels qui vous permettent d'espionner proches, conjoints, enfants ou même vos employés, hein, si vous êtes un employeur. Comment ça se passe ? Ben, ce sont des logiciels qui sont faciles à dégoter finalement sur le net. Ce sont des mouchards numériques, on les appelle aussi stalkerware, voilà, pour la version anglaise, qui est capable une fois installé de vous renseigner sur les activités, les contacts, les messages ou les sites visités de vos cibles. Donc voilà, ça fait un peu flipper. Alors je ne vais pas mentionner le nom du logiciel qui est le sujet de l'article d'aujourd'hui parce que je veux pas vraiment leur faire de la pub. J'étais un petit peu partagée ce matin entre vous parler de ça parce que c'est quand même de l'information sur les problèmes que l'on peut trouver en ligne et des outils malveillants que l'on peut trouver en ligne. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus leur faire de la pub. C'est pour ça que je ne mentionnerai pas le nom de la société en question. Voilà, donc c'est vraiment... Il se présente vraiment de manière très officielle pour quiconque souhaite espionner les activités quotidiennes de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses employés ou de son amant. Voilà, au moins, ils sont très très clairs, ils n'ont aucune honte. Pour rappel quand même, voilà, l'espionnage de l'intimité des proches ou de leurs subordonnés est interdit par la loi. Voilà, petit rappel, merci Lancy, il faut quand même se rappeler que c'est interdit. Donc, c'est à vos risques et périls pour ceux qui souhaitent faire ce genre de cybersurveillance domestique qui constitue du coup une nouvelle forme finalement de violence numérique. Et c'est important, je pense, d'en parler puisque ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin d'espionner ses proches. Malheureusement, donc, comme je vous le disais, il reste relativement facile de retrouver ces mouchards numériques. La société en question dit a priori fièrement qu'elle aurait 40 000 clients actifs chaque mois, malheureusement. Alors là, le principe, c'est qu'ils peuvent installer ce mouchard sur un ordinateur équipé de Windows ou un smartphone tournant sous Android. Ça fera de la pub peut-être pour certaines autres marques. Voilà. Et en fait, il suffit d'avoir accès au téléphone, a priori, de la cible en question pendant 5 minutes et de connaître son mot de passe pour pouvoir, du coup, installer le petit mouchoir. Ils recommandent même, voilà, ils disent le meilleur moment pour s'en occuper, c'est quand la cible dort. C'est quand même assez honteux, voilà. Mais ils se cachent de rien, hein, voilà. C'est assez incroyable. Ce qui est quand même particulièrement inquiétant, c'est que même si, évidemment, c'est interdit par la loi, on peut tout à fait critiquer les personnes ou l'éthique de ça, on peut aussi critiquer la sécurité des données collectées. Pourquoi ? Parce que, a priori, les spécialistes en cybersécurité de Motherboard ont mené leur petite enquête et ils ont vu, justement, que les données étaient stockées sur un simple serveur AWS. AWS, c'est le service de stockage d'Amazon, hein, très célèbre. Donc, des serveurs non sécurisés dans ce cas-là, des serveurs simples AWS, et accessibles via une simple URL sans aucune identification requise, pire que ça, la forme même des URL permet de trouver facilement du contenu, puisqu'en fait on va avoir une identification pour l'appareil et une date à la seconde près pour trouver à quel moment la donnée a été collectée. Ça va ouvrir la porte a priori à des attaques par force brute et donc au potentiel dévoilement de détails intimes de un tel, de Madame Michu, etc., à tout un chacun. Donc voilà, avec sans avoir besoin de connaissances techniques très très importantes. Dernier point qui est affligeant, c'est que ce mouchard peut être essayé gratuitement pendant 7 jours. Donc vous pouvez enfreindre la loi gratuitement pendant 7 jours en espionnant vos proches ou vos employés. Donc soyez avertis, voilà, là-dessus. Donc voilà, c'est quand même assez triste d'avoir ce genre de choses. C'est pas surprenant, mais c'est assez triste d'avoir ce genre de choses qui soient installées. Donc la morale, c'est garder votre mot de passe de smartphone pour vous. Ne donnez pas le Touch ID ou le Face ID de votre smartphone à votre conjoint. Jérôme, il va falloir qu'on revoie notre sécurité de couple. Mais voilà. Voilà, faites attention en tout cas à vous et rappelez-vous que c'est évidemment une infraction à la loi. Merci, merci beaucoup Exorus qui offre un abonnement à Lamoirod. J'espère que Lamoirod, tu pourras en profiter pleinement. Voilà. Donc, on continue. Tranquillement, on va continuer en prenant des nouvelles de Google et de New York. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, a priori, les grosses sociétés tech, ou en tout cas les GAFAM, s'exportent un petit peu de la côte ouest des États-Unis pour venir s'implanter un peu plus solidement sur la côte est. Et oui, donc là, c'est le tour de Google. Google qui va payer 2,1 milliards de dollars pour faire l'acquisition de bureaux new-yorkais sur l'île de Manhattan. Plus précisément, c'est donc le St. John's Terminal qui est situé dans le Hudson Square au sud-ouest de Manhattan, près de la rivière Hudson. D'ailleurs, c'était là où je restais moi quand j'avais travaillé un petit peu à New York pendant quelques mois. Les locaux avaient l'air très sympas de Google, ils sont assez énormes, et donc ils prévoiraient a priori d'ouvrir un campus de 123 000 m² pour en faire son siège du coup new-yorkais, spécialisé dans la vente et les partenariats. Donc c'est pas des nouveaux locaux, parce qu'en fait aujourd'hui ils les louent déjà, ils vont juste en faire l'acquisition. Donc en fait, ils ancrent vraiment leur présence sur l'île de Manhattan en faisant carrément l'acquisition du bâtiment. Donc nouveau siège stratégique hein, pour Google, mais c'est pas le seul, puisque depuis 2 ans, on a pas mal de GAFAM qui donc s'attaquent à la Big Apple, puisque en 2019, c'était Amazon qui faisait l'acquisition de bureaux dans le Queens, et puis ensuite, on a eu notamment Facebook, qui avait signé un bail hein, pour louer des bureaux de 205 000 mètres carrés proches de l'Union Square. Voilà, donc ça c'est intéressant puisque les GAFAM représentent un quart de la capitalisation de la bourse américaine et donc ils ont un intérêt stratégique. Donc New York a un intérêt évidemment, mais ils ont un intérêt stratégique aussi à s'implanter à New York. Pourquoi? Bah, tout simplement, New York est devenu un peu le fief des médias et de la publicité. Hein, voilà, donc c'est intéressant d'être implanté à New York. Et puis aussi, New York est quand même réputée pour être la ville où il y a un brassage culturel et de talent assez remarquable. New York, on le dit souvent que c'est un peu la moins américaine des villes américaines aux États-Unis. Et donc du coup, parce qu'en fait, il y a un brassage culturel et un dynamisme artistique assez incroyable, parce que voilà, plein de personnes qui ne sont pas américaines viennent à New York, et donc ça en fait un berceau de talent assez intéressant, très attractif du coup pour ces sociétés tech, voilà, qui sont toujours en recherche de talent. Même si, du coup, on travaille de plus en plus à distance, etc., ça reste quand même intéressant. Donc voilà pour l'implantation. On suivra un petit peu si ça, si c'est une tendance qui se confirme. On a parlé pas mal aussi des effets qui se passaient à San Francisco, voilà, négatifs de l'augmentation des loyers à cause des sociétés tech, etc., qui faisaient fuir toute une certaine population qui n'avait plus les moyens, du coup, de subvenir au montant, enfin, de pouvoir se permettre de payer les montants requis sur les loyers, etc., dans la zone de San Francisco. On verra un petit peu l'évolution, si c'est peut-être ça confirme peut-être une perte de vitesse de la Silicon Valley et de la zone de San Francisco. Voilà pour le petit moment géographie et achat de bâtiments. On continue cette fois-ci, on prend des nouvelles de Johnny Ive, notre ami Johnny Ive, et de Mark Newson, évidemment, parce que c'est quand même le duo qui est intéressant, qui ont évidemment fondé la société Love From, puisque du coup, Johnny Ive avait quitté Apple en 2019, ça fait déjà 2019, ça me paraît super loin, mais c'est vrai que finalement avec le confinement, c'était avant le confinement, et le confinement c'était en 2020, et voilà, la crise sanitaire, ouais. Donc c'est assez fou comment le temps passe. Ouais, c'était déjà en 2019, donc ils avaient fondé leur propre agence de design. On avait peu de détails sur cette agence de design, on en a encore très très peu. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Tout simplement, ils ont signé un partenariat avec la société automobile iconique Ferrari, donc c'est pas rien, voilà. Et donc du coup, c'est intéressant, parce que Ferrari, la renommée automobile et de marque international que représente Ferrari, de prestige, veut s'associer avec justement la réputation en termes de design de la société et de ces deux pointures de design, hein, Johnny Ive et Mark Newson. Donc c'est assez excitant. On a peu de détails sur qu'est-ce que représente leur partenariat. The Financial Times, a priori, dit que le partenariat inclurait notamment des contributions qui concerneraient la première voiture électrique de Ferrari, qui prévoit d'introduire, de présenter en 2025. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas peut-être pas complètement étonnant que Ferrari souhaite s'associer avec Love From, sachant que on a un exécutif d'Apple qui siège au board du coup de Ferrari, puisqu'on a ni plus ni moins que Eddie Q qui est au board du coup de Ferrari. Donc potentiellement, il y a eu peut-être des discussions, des intérêts communs ici qui ont été présentés. Voilà, donc c'est intéressant, on n'éclaircit pas trop l'image de la société de design Love From. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Ferrari est la deuxième grosse boîte très très connue à signer un partenariat, puisque l'année dernière, c'était Airbnb qui avait signé un partenariat. On attend encore de voir les fruits un petit peu de ces collaborations pour voir un petit peu, pour mieux cerner un peu l'impact que peut avoir la société de Love From pour ces boîtes. Mais pour l'instant, ça reste assez énigmatique. Donc, on vous tiendra au courant encore une fois si on a plus de détails dans les temps à venir. Donc, dans la prochaine... Oh là là, il y a des trolls dans la chatroom. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre le troll, Gpif. Mais on nous dit, donc, la prochaine Ferrari, le plein se fera sous les roues. À référence de la fameuse souris d'Apple qui se branche en Lightning en se mettant sur le dos, qui est super pratique évidemment. Voilà, ça je me rappelle cette aberration de design. Mais voilà. Après, voilà, il y a eu des fails, mais il y a eu aussi des gros, gros succès. Hein. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Mais celui-ci, c'est un stagiaire en fait qui avait proposé ce branchement. Voilà pour les petites nouvelles concernant Johnny Ive et Mark Newson. On va terminer les actu tech avec une mystérieuse attaque de corbeaux qui viserait des drones de la société Wing. Alors ça paraît assez fou, mais il y a une petite vidéo. Alors, j'ai pas vérifié d'où provenait particulièrement la vidéo. Hein. C'est Business Insider, a priori, qui nous le partagerait. Je vais vous la montrer. Je vais juste m'assurer j'ai pas de son, c'est bon. Je vais vous la montrer. Donc il me faut l'iPad, hop, voilà, donc là vous voyez l'iPad, je lance la petite vidéo, donc là vous voyez le drone ici là, tout simplement, donc on le voit voler tranquillement, faire sa petite course, voilà, pour l'instant tout va bien, grand ciel bleu, rien d'inquiétant, mais à un moment donné, on va avoir un oiseau qui arrive et qui attrape une des queues du drone, qu'on voit d'ailleurs, qui porte son petit paquet, hein, et qui s'attaque dessus. Et ensuite, le drone qui a réussi à rester stable et qui délivre le paquet. Donc voilà. Donc là, on voit. Donc c'est bon. Là, rien. Il n'y a pas eu de drame. Pas de catastrophe. Pas de catastrophe à déplorer, heureusement. Mais quand même, c'est assez impressionnant de voir des corbeaux carrément attaquer des drones de cette manière-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, c'est la société Wing, comme je vous disais, un service de livraison par drone lié à Google, qui fait ses activités, donc notamment en Australie, pas que, mais notamment en Australie. Ils officient aussi en Finlande, aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qu'ils livrent ? Ben, a priori, ils livrent des choses comme du café, donc, pratique si le corbeau attaque, ça doit renverser tout, à moins que ce soit complètement scellé, mais bon, c'est pas très très pratique. Donc café, sushi, médicaments à une vitesse record, puisque c'est évidemment l'avantage des livraisons par drone. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose qui a été vu donc en Australie, dans la ville de Canberra, où on voit depuis quelques jours ces attaques qui sont visibles donc par ces corbeaux. Donc c'est a priori, on nous dit que c'est la période de nidification, donc c'est normal, il y a beaucoup beaucoup d'oiseaux. Mais là, ce qui est quand même assez étonnant, c'est ces attaques. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, du coup, ça a amené la société Wing à mettre en pause son activité pour l'instant, pour une partie de ses clients donc, qui sont situés dans la ville de Canberra ou de là. Je ne sais pas si c'est une ville ou une région, je ne suis pas capable de vous dire, mais voilà, qui sont à Canberra, afin justement de mieux évaluer les risques de ces rencontres entre les corbeaux, ou en tout cas les oiseaux, et ces fameux drones. Donc là, c'est tout à leur honneur, hein, ça m'a fait sourire, mais ils disent qu'ils veulent avoir l'avis d'experts en ornithologie, du coup, pour s'assurer que leur activité n'est que des effets minimaux sur la vie des animaux, que ça ne perturbe pas notamment des mouvements migratoires, etc. Donc à voir ce qui va se passer, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont mis en pause leurs activités. En tout cas, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que l'activité a explosé, hein, de la société Wing grâce à la crise sanitaire, puisque du coup, ça a largement poussé à la demande de ce type de livraison. On pouvait moins sortir, on était encouragé à rester chez nous, etc. Et donc du coup, les gens n'avaient était moins occupé, donc du coup ça a amené pas mal de gens à acheter des choses, etc. Pardon. Alors là, ça reste des produits de consommation rapide, puisque c'est soit des boissons, soit des médicaments, soit de la nourriture, donc c'est pas non plus des livres, des habits, etc. Mais en tout cas, ça a permis de booster l'activité de Wing, et on le voit, hein, il y a eu une hausse d'activité de 500% entre 2019 et 2020, donc ils étaient déjà sur une bonne croissance d'activité, mais un rythme comparable entre 2020 et les premiers mois de 2021. Donc voilà, ils sont vraiment sur une tendance très très claire. T'as jamais entendu parler de Canberra ? Non, jamais, Vincent. Je suis inculte, mais... Canberra, c'est la capitale de l'Australie. Ah ouais, écoute, je connaissais Sydney... C'est la capitale fédérale de l'Australie. Ok, bah écoutez, je ne savais pas du tout. Il faut que je revoie un petit peu mes capitales. Voilà. Donc, carrément dans la capitale. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus une ville paumée. Franchement, je ne sais pas quoi penser de ces livraisons de drones. Quand il y en a un dans le ciel, ça va encore. Mais quand il y en aura des centaines qui volent au-dessus de nos têtes, ça doit être l'enfer. Ouais, je suis un peu comme toi, Zonia. Je pense qu'il faut voir un petit peu comment ça va évoluer. Le danger d'un fort afflux de drones ne peut-il peut-être pas perturber les flux migratoires des oiseaux migrateurs ? Mais c'est justement la question, Florian. C'est justement la question. Et là, c'est pour ça qu'ils ont mis en pause leur activité, pour demander à des experts en ornithologie, justement, leur avis, pour mieux comprendre l'impact, justement, de l'activité de la société Wing sur les oiseaux. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas plus d'infos. Mais c'est quand même assez impressionnant, la vidéo est assez impressionnante. Les oiseaux migrateurs sont pas plus hauts? Je suis pas capable de dire, Vincent, je m'y connais pas assez pour te répondre. C'est très bruyant, les drones aussi. Mais je trouve que Claricule. Alors oui, là on voit hein, dans la vidéo, si vous la regardez chez vous, parce que là je ne peux pas vous partager le son, dans la vidéo on entend, hein, c'est très très bruyant en effet, mais en même temps il reste à une altitude où le son ne se fait pas trop attendre, il n'y a que le moment où ils descendent finalement qui est bruyant, et finalement c'est assez pratique parce que ça permet de savoir quand il y a eu une livraison d'effectuée. Mais c'est de moins en moins bruyant, je trouve, les drones, en tout cas les drones... grand public, on va dire, donc beaucoup plus petits, beaucoup moins puissants, qui ne peuvent pas soulever ce genre de poids. Ils ont fait des grands progrès en termes de son, je trouve. Parce que j'étais assez surprise la dernière fois, j'en avais croisé un, et en fait, je ne l'ai pas entendu jusqu'à ce qu'il soit vraiment au-dessus de moi, quoi. Donc ça, c'était assez même flippant, j'ai envie de vous dire. Voilà pour les drones. Un petit peu vos commentaires. C'est pour la zone où ton voisin le plus proche est à un quart de chez toi en voiture. Un quart d'heure de chez toi en voiture. Bah non, Adou, pas vraiment, parce que si on parle de la capitale fédérale de l'Australie, Sydney, la capitale de l'Australie, et Rio est la capitale du Brésil. Les pièges de quiz. Non, mais carrément, ouais, carrément. Non, parce que justement, si c'est la capitale fédérale, c'est que la densité de population n'est quand même pas ce que tu présentes. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà. Bon, ben, c'est la fin en tout cas des news tech ce matin. Restez connectés puisqu'on a quand même la tartine dont on va parler quelques minutes. On va parler de fondation. Mais juste avant de parler et d'enchaîner avec la tartine, on va quand même parler de mon petit placement que vous pouvez voir à l'écran justement. Et ben, on va le découvrir ensemble parce que moi, je ne connaissais pas mon petit placement. Donc, mon petit placement, je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore. Hop, je vous partage mon iPad. Voilà, là vous voyez le site internet de mon petit placement, donc assez sympa. Toi aussi, profite de la crème du placement. Donc qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, petite présentation légale, parce que c'est quand même quelque chose qui a trait à du placement d'argent. Mon petit placement, c'est donc une plateforme qui propose des produits financiers. Donc nous, on vous présente la plateforme en tant que solution technique pour vos placements. Mais évidemment, l'équipe du Mug et de Naotech ne vous donne aucun conseil d'investissement. D'abord, on n'est pas du tout expert dans le sujet et c'est pas non plus le but. Vous demeurez entièrement maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion. Et généralement, quand il y a du placement, il y a des potentiels de gains et de pertes. Donc là, soyez voilà, informés et sur cet aspect-là. En France, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude des placements. Je sais pas si certains s'en sont posés la question, mais on est quand même assez frileux, hein. On a quand même plutôt une culture d'épargne en France. Donc, mais c'est quand même assez intéressant de s'informer, de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, le rendement du livret A aujourd'hui est à 0,5%, hein, c'est inférieur au taux d'inflation. Donc pas vraiment très très intéressant. Bon, après, ça vous sécurise quand même de l'argent. Et c'est vrai qu'en France, on n'ose pas vraiment se lancer car l'investissement est souvent associé aux riches et aux experts. Alors là, pourquoi? Parce que comme je vous le disais, il y a un potentiel de perte. Donc évidemment, il faut investir uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre et qui ne va pas vous gêner dans votre confort de vie quotidienne, dans vos projets futurs personnels, que ce soit achat de maison, d'appartement, etc. Voilà, il ne faut pas que ça vous pénalise. Donc c'est l'argent, entre guillemets, que vous pouvez perdre. Donc c'est là où finalement on se dit c'est réservé à une certaine frange de la population. Mais la solution, voilà, petit placement, mon petit placement aujourd'hui, donc c'est un placement simplifié à partir de 300 euros. Donc là, ce qui facilite, c'est que c'est en fait, vous pouvez faire des petits montants. Donc ce sont des produits financiers qui sont sélectionnés. Donc c'est plus facile aussi. Vous ne devez pas vous informer sur toute la panoplie de produits financiers qui existent, parce qu'il y en existe beaucoup. Vous avez des experts aussi qui sont joignables par téléphone, mail ou chat. Donc ça va vous aider à poser des questions, à vous guider. au quotidien, ils ont l'air accessibles. Et c'est aussi destination des débutants ou experts. Donc voilà, on a des produits financiers qui sont classés par risque. Donc vous pourrez définir quel type de risque en fonction de votre familiarité justement avec ce système de placement. Généralement, plus vous êtes familier, plus vous pouvez vous permettre des placements risqués parce que vous êtes informé là-dessus. Moins vous êtes informé, plus vous pouvez commencer par des placements un peu plus sécurisés. Voilà, donc c'est, vous pouvez gérer le taux de risque et vous pouvez investir en accord avec vos valeurs, c'est-à-dire climat, égalité, santé et tech. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa de ne pas placer juste pour la notion de gagner de l'argent, mais c'est aussi investir et placer pour soutenir des causes qui vous importent, des choses dans lesquelles qui sont alignées avec vos valeurs et auxquelles vous croyez. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que si vous y croyez, si ça correspond à vos valeurs, vous allez être plus enclin à vous renseigner. Et c'est un peu la clé hein, de ce type de placement. Donc voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, vraiment, rendez-vous sur le site internet que vous voyez affiché à l'écran, monpetitplacement.fr, pour répondre du coup à un petit questionnaire, ça va vous déterminer tout simplement quel type de profil d'investisseur vous êtes, et donc du coup vous faire des recommandations adaptées, si vous êtes expert ou plutôt débutant, etc., qu'est-ce qui vous importe. Et vous pourrez profiter aussi d'une réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code NOWTECH. Voilà, donc ça, c'est partagé grâce à Samuel. Merci, merci d'avoir partagé le petit message. Donc voilà pour notre placement ce matin. Mais vous voyez, j'ai découvert en même temps que vous. Moi, je trouve ça intéressant quand même qu'il y ait des services accessibles pour, du coup, comprendre les impacts du placement. Je suis très, très orange. Du coup, on va augmenter un petit peu la lumière. Voilà. Là, j'ai une tête un peu moins orange. Voilà pour le petit partenaire et on les remercie de soutenir évidemment l'émission. Je vous propose de terminer tranquillement avec la tartine. Et voilà, je fais ma petite pause thé pour reprendre mon souffle. Et on va parler de fondation. Et oui, fondation, donc là, niveau d'excitation très très haut, hein, puisque c'était donc l'adaptation extrêmement attendue du fameux cycle de fondation, roman, j'ai envie de vous dire, monument de la science-fiction, écrit par Isaac Asimov. Donc ça a été publié plutôt dans les années 50 jusqu'en 1992. Donc, vous voyez que ça s'est étalé sur des dizaines d'années. Hein. Ça a commencé par une trilogie. Et puis après, il y a eu des préludes qui ont été publiés. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est pour toute personne qui s'intéresse à la science-fiction, c'est un monument de la science-fiction, c'est une référence. Ça a influencé évidemment toutes les productions de science-fiction qui sont sorties après. Donc les commentaires, c'est un peu comme Dune qu'on a pu voir, mais tous les commentaires du genre Star Wars, ils ont copié Dune a copié sur Star Wars ou Fondation a copié sur Star Wars, etc. En fait, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, donc c'est un monument de la science-fiction qui a évidemment influencé tous les créateurs dans le domaine, après que ce soit dans les romans, dans le cinéma, etc. etc. Et donc du coup, je ne sais pas si vous en rappelez, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais il y a quelques années, je crois que c'était quand j'avais appris la rumeur sur le travail de fondation, peut-être même un peu avant. J'ai découvert, du coup, j'en avais entendu parler évidemment, mais j'ai lu les livres il y a quelques années, je pense 2 ans à peu près, parce que c'était avant le confinement. Donc j'ai dû le lire en 2018 ou 2019. J'ai beaucoup aimé. Il y a certains livres que j'ai plus aimé que d'autres, mais j'ai énormément aimé le cycle de fondation, mais de quoi il s'agit? Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire la petite partie synopsis. Donc tout simplement, on se retrouve dans un futur lointain, l'humanité a conquis les étoiles, on a érigé donc un empire ultra puissant qui s'étend à travers la galaxie et qui a résisté à l'épreuve du temps puisqu'il s'est étendu sur des millénaires. Donc là, voilà, il y a eu plusieurs millénaires qui se sont passés. Hein, donc l'Empire existe depuis énormément de temps. On a même oublié où était située la Terre. C'est pour vous dire, parce que la Terre est devenue inhabitable. Et depuis, c'est devenu... voilà, on ne sait plus où elle se situe. Et là, on se retrouve donc dans une année... X, parce que bon, ça importe peu ici. On va suivre du coup le psycho-historien Harry Seldon qui va faire une prédiction grâce à la science de la psychohistoire. C'est quoi la psychohistoire? Tout simplement, c'est la capacité de définir des probabilités qui vont arriver, qui vont toucher notre société ou voilà l'histoire grâce à des probabilités, donc grâce aux mathématiques. Moi, je trouve ça génial. La psychohistoire, je trouve ça vraiment, vraiment histoire, enfin génial. Donc voilà, là j'ai une définition vraiment juste. C'est une méthode qui va se reposer notamment, donc ça c'est important, sur les grands mouvements sociaux et économiques qui arrivent et qui va permettre de prédire en étudiant leur courant présent et qui va permettre d'établir des probabilités sur les conséquences à venir de ces grands mouvements de population économique et sociaux. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais du coup, voilà, la psychohistoire, ça ne s'intéresse uniquement à ces grands mouvements. Ça ne va pas du tout pouvoir prédire les actions d'une personne lambda. Voilà, ça ne va pas s'intéresser aux individus, ça ne peut pas, en effet, s'appliquer à l'échelle d'un individu, parce que c'est trop imprévisible, etc. Mais en tout cas, avec ces grands mouvements, on va être capable de définir des probabilités avec les mathématiques qui va permettre de prédire certaines évolutions, certains chemins probables de l'humanité. Donc ça, je trouve ça génial, le principe vraiment est brillant. Et donc là, on va retrouver donc ce fameux psychohistorien Harry Seldon, qui va devenir mythique hein, ensuite, qui fait une prédiction qui va évidemment choquer l'Empire, puisqu'il prévoit que dans 500 ans, l'Empire galactique va s'effondrer et laissera la place à une ère de guerre et de barbarie sans précédent, en gros le chaos. Voilà, donc là, évidemment, ça va traumatiser, hein. L'humanité va régresser, et durant cette période d'obscurantisme, tous les progrès scientifiques et culturels de l'Empire seront perdus à jamais. Mais il reste un espoir, et c'est ça qui est intéressant. Là, Harry Seldon dit, il y a potentiellement un moyen de réduire cette période d'obscurantisme, et en gros, cette période où l'humanité va risquer l'extinction, mais il y a possibilité de la réduire, donc de 30 000 ans à 1000 ans. Donc c'est quand même pas mal, hein. On divise pas mal cette période d'obscurantisme. Et donc ils disent notamment que quelle serait la solution? Ça serait de mettre en place la fondation. Alors justement, c'est le nom de la série, c'est le nom du cycle, évidemment. Tout tourne autour de cette notion de fondation. Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation fondée par le scientifique pour réunir et compiler tout le savoir de la galaxie en une gigantesque encyclopédie, c'est l'Encyclopédie Galactica ou l'Encyclopédie Galactique. Donc c'est une idée d'Harry Seldon, mais en gros il va se reposer sur des centaines et des milliers de scientifiques qui vont partir ensemble fonder cette fondation et préserver, documenter et recenser le savoir culturel. Donc quand je dis culturel, ça peut être à la fois scientifique, culturel, social, enfin vraiment tout ce qui a trait à la définition de l'humanité, finalement, le langage, etc., les traditions, etc., et qui va donc aller fonder cette fondation quelque part, qui permettrait à la civilisation donc de renaître en puisant justement dans ce condensé de savoir et de redémarrer plus rapidement sur des bases. En fait, en gros, avoir une base d'humanité quelque part prête à renaître avec tous les outils et le savoir nécessaire pour redémarrer sur des bonnes bases. Voilà. Et donc, du coup, là-dessus, ça va être exilé sur une planète. Donc là, certains vont me dire « Ah, mais t'as spoilé le premier épisode, etc. » Non, mais autant vous dire que c'est genre un chapitre dans le premier livre du cycle Fondation. Voilà, et là, c'est le premier épisode. Je vous ai raconté, en gros, le premier épisode de la série qui est sorti vendredi dernier. Hein. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça vous pose un petit peu l'univers. Voilà. Donc on va suivre évidemment les aventures de Harry Seldon, on va suivre les aventures de d'autres personnages. Ce qui est intéressant, moi, le point qui m'a marqué, honnêtement, quand j'ai lu les livres, je me suis dit, mais c'est inadaptable. Inadaptable parce que l'ampleur du cycle, ça se déroule, le cycle des romans, le principal personnage... C'est la fondation. C'est pas les humains qui gravitent autour. C'est vraiment la fondation en elle-même. Cette organisation, ce projet, cette organisation qui va se développer, qui démarre d'idées, de projets fous à justement le développement, les débuts et ensuite les différents challenges de développement, d'enjeux politiques, de gouvernance, etc. Et donc, du coup, ce qui se passe dans le premier livre, enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que chaque chapitre, vous avez des bonds dans le temps, où en fait, vous avez des personnages dans le premier chapitre, donc on va voir Harry Seldon, dont on fait la connaissance, parmi d'autres, et dans le deuxième chapitre, vous allez avoir d'autres personnages, Harry Seldon, ça devient le papa de la fondation, le fondateur, mais c'est tout, et puis ensuite, ça va devenir carrément un mythe, etc., mais en fait, vous faites des bonds dans le temps et vous suivez jamais les personnages. Donc, notamment le premier livre, est assez déstabilisant, puisqu'il n'est pas du tout centré sur les personnages en eux-mêmes. Et donc, du coup, j'étais assez curieuse de l'adaptation. Alors, pour l'instant, ma première remarque, c'est que dans l'adaptation, actuellement, on voit que le rythme est beaucoup plus lent. C'est-à-dire que dans les premiers épisodes, on suit les mêmes personnages. Donc, vous n'allez pas être complètement dépaysé. Là où il y a un potentiel de complexité, c'est que là, ce qu'on voit dans la série, c'est qu'on mélange plusieurs époques. Or, dans les livres, on mélange pas plusieurs époques, c'est vraiment chronologique. N'hésitez pas à me dire hein, si je me gourre complètement, parce que ça se trouve, ma mémoire des livres n'est pas super claire, donc je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir lu les livres de Fondation dans la chatroom, donc n'hésitez pas à me dire hein, si je me suis trompée. Mais voilà, donc là, premier changement, c'est que déjà, on suit de manière beaucoup plus proche les personnages. Il y a évidemment des personnages qui vont changer de sexe, de background culturel ou de couleur de peau, etc. Heureusement. Alors, il y en a, je vois qu'il y en a qui ont critiqué, qui ont l'impression qu'il y a un quota de diversité dans la série. Moi, en tant que femme, j'ai envie de vous dire, le cycle de Fondation, il a été écrit dans les années 50, qui n'était pas la société de 2021. Et heureusement que 2021 a évolué, qui est plus diverse, plus inclusif. Je veux dire, il n'y a aucune femme dans le cycle Fondation, quoi. Elle ne joue aucun rôle clé. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils ont pu revoir le casting donc, de la série Fondation pour être plus variée, diverse et inclure tout type de profil. Pourquoi ? Parce que c'est la science-fiction, c'est là où des jeunes vont pouvoir s'identifier, rêver et de montrer que toute personne peut rêver de n'importe quel background. C'est hyper important. Ça va vous ouvrir l'esprit, le champ des possibles et vous allez pouvoir vous imaginer, c'est caricatural, mais en pilote d'avion quand c'était pas possible dans les années 50. En tout cas pour une femme. Voilà, c'est important. Ça donne un peu peut-être l'impression d'être un peu forcé, et c'est peut-être un peu le cas, mais c'est pour faire évoluer les mentalités et permettre aux générations futures de se projeter et de se dire qu'ils ont accès à tout et de tendre vers une société beaucoup plus inclusive à terme. Ce qui n'est pas... On a fait des progrès hein, depuis les années 50, mais il y a encore des progrès à faire. Voilà. Donc pour moi, ça m'a pas choquée. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc il y a eu notamment le rôle de Gal qui a changé. Mais voilà. Pourquoi c'était pas possible ? Adou, il faut que je te refasse l'histoire. Voilà, une société dominée par des hommes blancs, d'une certaine origine, voilà. Enfin bref. toute l'histoire de tout pays, de tout, on a pu voir. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais donc on revient sur la série. Donc là, je peux vous montrer peut-être justement le casting. Est-ce que j'ai les acteurs? Donc là, je vous montre un petit peu. Donc voilà, là on a les acteurs. Donc on a Lee Pace qui est un des acteurs qui joue et qui incarne l'Empire. Je vous ai fait un petit spoiler, mais là vous le verrez dès les premières secondes du premier épisode aussi. Donc il joue Brother Day. On a Jared Harris qui donc joue le fameux psychohistorien Harris Eldon. On va suivre un des personnages qui a l'air d'être un des personnages principaux, c'est Gale Dornick, voilà, qui est originaire d'une autre planète et qui va rejoindre le psychohistorien Jared Harris, parce qu'elle a, ça a l'air, ça a l'air d'être une personne avec un cerveau qui pense de manière différente et qui va savoir être l'unique personne à savoir comprendre et décoder justement le travail de psychohistoire de Harris Eldon. Parce qu'en fait, c'est un peu le problème lié à cette science, c'est qu'en fait, c'est tellement complexe que très très peu de personnes peuvent comprendre la psychohistoire. Et donc, du coup, c'est là où ça jette le doute sur les prédictions d'Harris Eldon, et c'est là où ça va diviser l'Empire, c'est que certaines personnes vont faire confiance dans la science. Et les propos dits, en gros, lui, il dit, moi, j'ai la science qui permet de prouver que l'Empire va avoir sa chute. Et d'autres personnes disent, non, mais évidemment, c'est facile de dire ça, on ne peut pas vérifier votre science parce que personne d'autre la comprend, ce qui est en effet une critique assez intéressante, mais bon, voilà, je pense que c'est un sujet de discussion en tant que tel, de l'accessibilité de la science, et plus on y va, plus elle est inaccessible au commun des mortels, on va dire. Et donc, Gale Dornick, justement, est une des seules à comprendre les prédictions et les calculs mathématiques de Harris Eldon. On va suivre aussi Selvar Hardin, qui, elle, est un personnage qui est dans une autre époque, dans le futur, où on se retrouve donc sur la planète Terminus, où elle va protéger, c'est un peu le gardien de la planète Terminus. Donc ça, c'est intéressant. Terminus, c'est la planète où la fondation va être le projet fondation et va être fondée. On va suivre aussi Demerzel, qui va être l'assistant de l'Empire. On va suivre aussi Brother Dawn, qui est donc un autre acteur qui incarne l'Empire, et Brother Desk, c'est un petit peu bizarre, Brother Dawn, la photo, parce que c'est un gamin qu'on voit. Un petit peu bizarre. Et Brother Dusk, pardon, Terrence Mann. Donc en gros, l'Empire est incarné par trois acteurs d'âges différents. Hop, là, ça diverge un petit peu des livres, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce qu'en fait, c'est le même homme qui a été cloné, et donc du coup, comme il est cloné, il y a différents âges. Donc on a la personne mûre, le vieillard, on a l'homme dans la fleur de l'âge, et puis on a donc Don, la nouvelle ère, l'enfant. Donc je trouve ça hyper intéressant, hyper malin comme perspective. Donc ça diverge un peu des livres. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la série? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Donc là, il y a eu un article de Courrier International qui a été assez intéressant là-dessus et qui partage un petit peu différentes perspectives. En tout cas, ce qui marche bien. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une adaptation complètement fidèle des livres. On le voit déjà directement au deuxième épisode. On va suivre un peu plus les personnages. Il va y avoir un peu plus de sensationnel. Il va y avoir des accidents assez incroyables, assez impressionnants. Il va y avoir un peu plus d'action. Alors que les livres de Fondation, c'est quand même, enfin Isaac Asimov, c'est quand même plutôt un scientifique. Donc déjà, il ne s'attarde pas trop sur les personnages. Mais en plus, il va plutôt s'intéresser aux intrigues politiques et moins sur le caractère des personnages et leur lien entre eux. Alors que Fondation, là, on sent que ça s'axe plutôt sur quand même de l'action, des personnages qui se lient entre eux, il y a déjà des romances en place, on va avoir les intrigues politiques, je pense que moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup ici, et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on va avoir des réflexions sur la société, et ça moi c'est ce que j'ai adoré dans Fondation, notamment dans le deuxième épisode, il y a une discussion sur en gros comment la Fondation va décider comment on répertorie, parce qu'en fait, la fondation est donc dans une comment dire, ils sont pressés par le temps. On n'a peut-être pas l'impression, parce qu'on se dit que l'Empire va s'effondrer dans 5 siècles, mais en fait, 5 siècles pour documenter toute la galaxie et l'héritage technologique, culturel de la galaxie, en fait, ça peut être peu. Donc, ils sont vraiment sur un enjeu de comment on va prioriser la documentation de ce savoir, de cet héritage, pour permettre de recentrer sur les bonnes bases, de redémarrer sur les bonnes bases. Et en fait, rien que ça, par quoi on commence, c'est une discussion passionnante. Par quelle planète on va commencer, par quel domaine on va commencer, telles planètes vont utiliser un tel système numérique, mais les autres planètes vont utiliser un autre système. Si on démarre par celle-ci, pourquoi on démarrait par les planètes les plus proches de Trantor, par exemple? Trantor, la planète où siège l'Empire. Est-ce que c'est parce que c'est le centre de l'Empire aujourd'hui, mais est-ce que ça fait sens de documenter justement le centre de l'Empire qui va s'échouer, qui va chuter? Ou est-ce qu'en fait, ça serait plus divers et inclusif de documenter des échantillons disséminés de manière aléatoire dans la galaxie pour représenter un échantillon, enfin avoir un échantillon représentatif de l'héritage culturel et scientifique? Enfin voilà, tout ça, ne serait-ce que ça, c'est remarquable. Enfin, moi, c'est ce que j'ai adoré dans les livres. C'est la définition même de la société et à quoi on veut tendre et à ce qu'elle ressemble. La société idéale, qu'est-ce que ça serait? Donc, je trouve ça assez, assez passionnant. Enfin, moi, j'adore, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est trop tôt pour donner un avis. Mais vous, je suis intéressée là, et on va terminer par ça. On va faire un petit sondage. On va voir si je me rappelle comment faire un sondage. Je ne suis pas sûre, en fait. Là, je suis sur OBS et je ne suis pas sur Twitch. Donc, je ne sais pas si je peux faire un sondage. J'ai peur de faire des bêtises. On va peut-être faire un sondage. Ah oui, si, ça a l'air de marcher.
Hop.
Voilà, donc là ça fonctionne. Et donc, quelle est la question que je vais poser? Êtes-vous. Hop. Donc, préparez votre question, votre réponse. Si j'arrive à taper, c'est pas gagné. Êtes-vous excité par les deux premiers épisodes? De fondation. Je peux pas mettre de point d'interrogation, mais il y a un point d'interrogation à la fin. Très. Beaucoup. Un peu. Pas vraiment. Pas du tout. Et voilà, 3 minutes, commencez le sondage. Allez-y dans la chatroom, je compte sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous excité par les deux premiers épisodes de Fondation? De manière implicite, ça veut dire que ceux qui sont hypés du coup par la série continueront de la regarder et du coup on pourra en reparler quand la première saison sera terminée. Donc a priori, le point positif, c'est que Apple TV Plus a vraiment laisser la créativité artistique hein, pour les créateurs. Oleg nous dit qu'il n'aime pas les costumes. Ouais, il y a des choses que j'ai trouvées assez caricaturales. Je suis assez d'accord avec toi, Oleg. Je suis assez d'accord avec toi sur les costumes. Je suis pas super emballée. Là où je suis emballée, c'est que j'ai trouvé que la photo était très belle. Il y a des très très beaux plans. Il y a des acteurs que moi j'adore, notamment Lee Pace et Jared Harris, que je trouve qui sont des deux acteurs formidables. Lee Pace, pour ceux qui ne se rappellent pas, il a joué un elfe dans Le Hobbit. Il a joué également Ned dans Pushing Daisies, qui est une super série hyper touchante. Et il a joué aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Je crois qu'il faisait une voix, je ne suis pas sûre, une voix d'un grand méchant. il me semble. Et Jared Harris, bon, on l'a retrouvé dans The Crown, dans Tchernobyl. Enfin voilà, on le voit, c'est un acteur anglais ultra connu qu'on retrouve beaucoup. Voilà, donc on a deux acteurs très très connus qui jouent des rôles très forts, mais le reste du cast, ce sont des acteurs moins connus, des talents montants. Et je trouve ça super, parce que du coup, on a un peu le tremplin avec ces deux acteurs confirmés, et tout le reste, c'est des acteurs qu'on ne connaît pas, donc du coup, on les projette directement dans leur rôle. Et je trouve que ça fonctionne très 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 bien. Donc du coup, là pour l'instant, c'est pas mal. 47% quand même hein, qui sont très excités, hein, très excités par les deux premiers épisodes. Après, on a beaucoup et un peu à 14%. Voilà, donc on a quand même... on a presque 80... Ouais, plus de 80... Attends, c'est bizarre là. 6, 68, 72. 72%, voilà. Donc pas 80 mais 72% quand même de la chatroom qui est quand même excitée un peu, beaucoup, très par la série et on a 10% pas vraiment et 16% pas du tout, ça m'intéresse. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé, pas du tout intéressé parce que c'est la science-fiction et que vous n'aimez pas le genre? Tout à fait ok, moi j'ai horreur du policier, ça ne m'intéresse pas, c'est comme ça. J'y suis pas sensible, ça veut pas dire que c'est pas un genre intéressant, c'est juste que moi personnellement je suis pas sensible, ou c'est parce que vous avez vu les épisodes ou le trailer et que franchement vous avez pas été convaincu pour une raison ou une autre. Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Oui, Lee Pace évidemment dans Halt and Catch Fire, comment j'ai pu oublier cette série, voilà, oui, parce qu'en fait je l'ai connue en premier dans Pushing Daisies et j'avoue j'ai une appréciation particulière pour cette série, mais Halt and Catch Fire aussi, série incroyable que moi j'ai adoré. Par contre, je pense qu'il faut laisser la chance à plusieurs épisodes le temps d'installer un monde qui paraît ultra vaste. Ouais, en effet, les deux premiers épisodes sont relativement lents. Il se passe pas grand-chose. Bon, il y a quand même un peu de suspense, etc. Mais c'est pas fou, mais c'est souvent... Enfin, pour ce genre de série qui va installer un univers complexe, je pense qu'il faut aussi attendre un peu. Donc il y a des choses qui sont un peu floues, un peu vagues, notamment la projection dans le futur sur Terminus, on va voir comment ça se passe. Pas vu, donc pas voté, très clair. Oui, pas du tout, parce que j'aime pas le genre. Bah, ça, c'est tout à fait logique, Penny Pony. Moi, ça m'intéresse pas, désolé. Bah, ne t'excuse pas, y a pas de souci. Hein. Tous les goûts sont admis. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis intéressée par l'adaptation car je lis actuellement le deuxième tome. Ah, tu m'étonnes, Laetitia. C'est un trop bon moment, justement, parce que du coup, ça va pas te spoiler, mais du coup, tu vas avoir le temps de continuer et t'as, du coup, dans ton esprit, c'est très, très frais. Donc, tu vas être super bien placée pour comparer avec les livres. Moi, j'avoue, j'aurais dû lire le premier tome de nouveau pour comparer. Je pense que je le ferai peut-être une fois que j'aurai fini la série pour de nouveau comparer. Franchement, le deuxième épisode m'a refroidi. Je comprends, parce que le deuxième épisode se diverge vraiment du livre. Moi, il m'interpelle. Voilà. Mais le deuxième épisode diverge. Ouais, ouais. Mais je comprends. Je comprends vraiment. La série risque d'être assez lente avec 80 épisodes. Non mais Grolb, il y a tellement à raconter. Il y a tellement à raconter. Moi, enfin bon, après, il faut aimer ce genre d'histoire, mais c'est pas du Game of Thrones, il n'y aura pas de l'action. Et encore, Game of Thrones, il y a des fois, on s'embêtait un peu. Hein. Mais il va y avoir beaucoup de discussions, je pense, politiques, de tractations, etc. J'ai pris un abo pour découvrir et j'ai apprécié. Ah bah, comme quoi. Ouais, les livres, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pas très très visuel, ça s'accroche pas trop aux personnages, c'est vraiment risqué en adaptation fidèle, c'est vraiment casse-gueule. Hein. Donc, à voir. Je vais d'abord lire les bouquins. Franchement, Pierre-Route, ça se tient. Le premier livre de Dune est quand même moins lent. Il faut que je lise Dune, je ne l'ai pas encore lu, on en discutait avec Jérôme la semaine dernière. L'héroïne est un peu chiante, Miss Parfaite. Je suis d'accord avec toi, je suis pas super convaincue par l'héroïne pour l'instant. Mais bon, voilà, je pense qu'on est hypé. Il est 9h25. On va terminer l'émission avec mes co-présentateurs. J'espère que tu les as pas réveillés quand même. Avec mes deux petits co-présentateurs, avec un qui tombe, hop là. Et voilà, Mozza, viens ici. Hop, voilà. Ouh, ça ronronne. où ça ronronne et le petit cheddar. Petit bisou. Voilà, les petites boules d'amour, ça va ? Voilà, sur les jambes. Voilà, c'était le dernier petit moment chat, chaton. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une. Je vous retrouve à la semaine prochaine. Rendez-vous demain matin, évidemment, en compagnie de Jérôme pour le mug. Et retrouvez également le Twitch Achat à midi ou midi et demi. Jérôme ? Midi, midi ou midi et demi
Non, non, maintenant c'est le soir, c'est 17h.
17h30 le Twitch achat, j'avais 17h30. Raté. Oui, oui, 17h30 le Twitch achat, j'avais raté le changement d'horaire.
Et on va raider quelqu'un.
Et on va raider quelqu'un. On va raider qui je sais pas comment on fait dans l'interface.
On s'en occupe dans ce générique de fin.
Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.